Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de femmes. Je vous propose aujourd'hui une émission chargée d'émotions car le sujet touche beaucoup trop d'enfants et d'adolescents. Selon le Figaro, madame, il s'agit de l'un des tabous les plus tenaces de notre société. Seuls 10 % des victimes portent plainte à l'âge adulte. Dans le journal Le Monde, on parle de l'un des crimes les plus partagés et le moins puni. Le thème d'aujourd'hui est l'inceste, le grand tabou familial. Avec nous pour en parler, notre chroniqueur, le psychologue clinicien Pierre Faubert. Et après la pause musicale, je m'entretiens avec l'auteur, compositeur, interprète Manon Vincent, qui a accepté de témoigner sur l'inceste qu'elle a subi. Restez avec nous. Nous avons écouté Franz Liszt. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. De 2004 à 2019, vous avez été propriétaire de l'auberge à la Petite Seine et vous publierez sous peu le roman auto-fictif Touché, où vous parlez de l'inceste. Bonjour Manon Vincent.
Bonjour.
Bienvenue à Terre de femmes. Merci d'avoir accepté de partager cette expérience difficile avec nous. On s'est parlé à quelques reprises au téléphone et on avait commencé à se tutoyer. Là, j'ai dit « vous, est-ce qu'on continue? Ça va être plus facile, puis
oui.
Ça va nous éviter de passer du « tu » ou « vous », comme on est habitué de se tutoyer. Alors Manon, tu es enfant unique et ta mère et toi, vous avez subi, avant que tu subisses de l'inceste, de la violence physique de la part de ton père.
Oui, effectivement. Mon père était un homme violent, était un homme de trop. Qui se croyait, il croyait que c'était permis de nous corriger, en quelque part. C'était vraiment le mot qu'il aimait.
La correction.
Oui, c'est ça, c'était la correction.
Mm-hmm.
Alors, c'est une personne qui a des problèmes psychologiques importants, je pense.
Mm-hmm.
Mon enfance de 0 à 10 ans, en fait, c'est surtout là qu'il y a eu des contacts. puis qui a eu tous ces traumatismes-là qui suivent après ça tout le long de la vie.
Mm-hmm. Et dans ton roman qui est autobiographique, tu dis que vous avez déménagé souvent, donc oui. 33 fois.
Oui, en fait, avant l'âge de 20 ans, j'ai déménagé 20 fois, mais j'ai continué après parce qu'on continue sur une... Mais oui, effectivement, on a changé de maison souvent. Mm-hmm. Moi, j'ai jamais fait une année complète à la même école au primaire.
Okay.
Ce que ça apporte, c'est que... t'as jamais de cercle, t'as jamais de gang d'amis. Entrer en contact avec des gens, c'est pas évident. Quand t'as une vie parallèle avec ce qui se vit à la maison puis ce qui se vit à l'extérieur, à l'école, c'est difficile de faire des contacts. Moi, je suis enfant unique, j'avais pas d'amis, pas de petite cousine, pas de partie de famille. Alors, il y a comme une espèce de bulle qui se crée autour de tout ça. Et très jeune, ça fait qu'on apprend à avoir une double vie.
C'est-à-dire?
Ben, une vie avec ce qui se passe à la maison, qui doit rester à la maison cachée, que ce soit la violence, que ce soit l'inceste, on n'en parle pas. Et après ça, quand tu arrives dans la vie à l'extérieur, on dirait que tu n'as pas envie d'aller étaler ça comme ça. Tu vois que les gens vivent autrement. Même aujourd'hui, par exemple, pour donner un exemple concret, quand on est dans un souper avec des amis et que chacun raconte c'est son enfance au chalet avec des amis, etc., moi, je raconte quoi? De mon enfance, tu sais. Juste des images tristes de déménagement, puis
Il y a toujours un décalage, en fait.
Bien, c'est que veut pas dans la vie, t'as beau dire, ah non, non, moi, je vais vivre sans y penser, sans me victimiser de tout ça, sans vouloir être une victime, veut pas, dans plein de petits moments de la vie, ça te revient, ça te revient tout le temps à travers les choses, tu sais.
Et c'est intéressant parce que tantôt, tu disais, je voyais que je n'étais pas comme les autres. Donc, on le voit. On ne pense pas parce qu'il y a des victimes d'inceste qui disent « Ben moi, ce que je vivais à la maison, j'ai pensé que c'était normal et que tout le monde le vivait. Toi, non. Tu savais que ce que tu vivais à la maison n'était pas normal. »
Je sentais que ce n'était pas normal. Quand j'arrivais dans la cour des... Je sentais aussi que j'avais une... Je le vois aujourd'hui. Je me revois là, dans la cour d'école de la deuxième année. J'avais une fermeture. Tu sais qu'encore aujourd'hui, encore il y a quelques mois, des gens me disent « Manon, c'est difficile de te percer. Ouais. C'est difficile de saisir. » Puis moi, ça me ramène à ça. Tu sais, une photo de moi en sixième année, là, j'ai assez l'air bête. Là. Je ne me serais pas parlé moi-même. Okay. Tu sais, il y avait comme une espèce de fermeture qui était là aussi, hein, quelque part. Ouais. Là.
Et volontairement, c'était pour te protéger.
Inconsciemment. Mm-hmm. Inconsciemment, c'est clair que c'était ça parce que je ne pouvais pas tant parler de moi. Puis j'étais toujours la petite dernière arrivée dans une école, des fois partie, des fois arrivée en plein milieu d'une autre année. Pas nécessairement la belle blonde à bouclette non plus. Tu sais, j'étais pas l'enfant qu'on avait envie d'aller voir, ni... Je dégageais pas quelque chose de wow.
Et qu'est-ce qui a basculé, parce que c'est à l'âge de 7 ans où il a commencé à avoir les attouchements, puis le début des caresses, et du jeu...
J'étais la princesse, il était le loup.
OK. Mais qu'est-ce qui a basculé entre « il te frappe » et puis après, il y a des attouchements comme... C'est comme si on passe de la haine à l'amour. Est-ce qu'il y a eu un changement ou qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qui est très sournois, ce qui était dit à ce moment-là, c'est que puisque ma mère criait tellement et qu'elle était à la limite pas correcte, pas gentille avec lui, moi j'étais gentille.
Ah, d'accord.
Moi j'étais gentille. Moi j'étais une bonne fille, moi j'étais gentille et c'est vraiment là que ça a commencé de cette façon-là.
Okay.
J'étais comme... Et ma mère travaillait de soir. Donc, périodes de soir, je les passais avec lui. Alors, la façon d'amener ça, c'est pas... C'est dans la délicatesse, en quelque part. C'est toi, t'es gentil, toi, je t'aime. Et là, moi qui avais senti des climats de violence avant, et là, tu dis, oups, OK, attends, là, je vais être gentille. Puis c'est difficile pour
éviter la violence.
On parle, là,
aussi,
on parle de 7 ans, t'es un enfant de 7 ans. T'essaies de décrypter pourquoi il touche à ta mère, pourquoi il frappe ta mère, pourquoi il te frappe toi. C'est difficile de tout comprendre ça quand t'es dedans, puis tu sais pas. Il y a personne autour. Tu sais, il y a jamais... je suis sûre que personne ne se rappelle de la petite fille que j'ai été. Pas un voisin, pas une écolière, pas un professeur.
Ouais.
Alors, c'est voir ça dans sa tête. Fait que tout ce que tu as, c'est un père, puis une mère. Puis tu essaies de faire ce que tu peux avec ça.
Oui, bien sûr. Et ça a commencé comment, les attouchements? Comment il a commencé avec le jeu? Comment il t'a approché?
En fait, C'est sournois. Tu sais, il m'amenait au salon, il me présentait des revues, des Playboy érotiques, des choses comme ça.
Ah bon,
ça commençait comme ça. Tout simple. Oui.
OK. Ouais.
Et là, toi, tu te retrouves là, tu vois ça, et faut amener qu'un enfant peut avoir une curiosité, bien une sûr. Sexualité à la mm-hmm. limite. Alors, tu regardes ça, puis à un moment donné, oh, il se passe quand même quelque chose, parce que mm-hmm. parce qu'un enfant ressent quelque chose. Et suite à ça, ben là, il commence à y avoir, on s'en va dans la chambre, il se passe autre chose. Il allait, là, il me couchait, il partait et il revenait. Il allait fumer un joint à sa galerie, c'est plate okay. à dire, mais c'est ça. Et là, il revenait. Bon, la première fois, tu sais pas trop, mais à mm-hmm. un moment donné, tu connais le pattern. Oui. Et là, ça devient plus paniquant, tu sais. Oui. Et c'est ça, ça s'est étiré.
Il y a des tu fais dire à ton personnage principal dans ton roman, il y a des éléments, il y a des gestes que tu reconnais, une ceinture de pantalon, une robe oui. de chambre foncée.
Exactement.
Ça, c'était ce qui te, en fait, ce qui t'a marqué.
Ben, c'est que c'est des choses qui reviennent après. Moi, une robe de chambre, veux pas le lien, il est mm-hmm. là quand ouais. même. C'est des détails minuscules. Et il faut pas, souvent... J'écoutais tout à l'heure les statistiques que tu disais sur mm-hmm. l'inceste. On entend beaucoup dire « Ah ben, toutes les femmes ont vécu ça. Ah ben, mm-hmm. c'est pas si grave, j'ai passé au travers. Ouais. » On entend des choses hyper traumatisantes, des viols, des ça. Puis là, tu te dis « Oh, moi, mon histoire, c'est pas grand-chose. Mm-hmm. »
Alors,
on a tendance à... Oui, c'est ça, à banaliser, à mm-hmm. minimiser, puis à dire « Bon, c'est pas grave, je vais continuer. » Mais après ça, dans la vie, mm-hmm. tu sais, veux pas, c'est ton enfance, tu sais, c'est là qui sont nos racines. Oui. Après ça, avec l'âge, quand tu regardes en arrière, tu regardes ton histoire, ton enfance, il y a plein de fils à travers ta vie qui viennent de là. Alors, c'est ça, c'est des moments par après où tu te rends compte que, oups, c'est un flash ici et là, tu détestes les robes de chambre, puis... C'est dans ça la vie, après ça, avec mon chum, avec mon mari, avec...
Ouais, on va y arriver à oui. ton premier chum, d'ailleurs. Et en fait, ça a duré combien de temps, cet abus-là?
Cet abus-là a duré un an.
D'accord.
Et après, il y a eu un gros clash.
Et c'était des attouchements, des caresses.
Oui, c'était des caresses et c'était... Il me demandait de faire des choses avec ses parties génitales.
D'accord.
Alors, non, il n'y a pas eu de viol ou de pénétration. Il n'y a pas de gros mots comme ça dans mon histoire. Et c'est ça. Et
c'est
après,
pas moins important pour autant.
C'est ce qui est tellement important dans le message. Mm-hmm. Parce qu'après, veux pas, tu gardes ces images-là qui reviennent tout le temps.
Bien sûr.
C'est sûr. Fait que ça a duré un an.
Puis tu pouvais pas en parler à ta mère parce que il fallait pas que tu lui fasses de peine, c'est ce qu'il te disait.
Ben oui,
faut pas en parler. Puis comme tu sais qu'elle a de la peine.
C'est notre secret. Puis moi, déjà, c'était particulier de voir ma mère essayer de survivre à tout ça. Fait qu'au bout de l'année, il est arrivé d'autres épisodes de violence, mm-hmm. assez pour qu'on parte, qu'on s'en aille aux îles de la Madeleine. Et au retour des îles de la Madeleine, là, toute son attitude avait changé par okay. rapport à moi. Tout avait changé dans le sens où là, j'étais plus sa complice. Là. J'étais devenue comme je m'étais sauvée avec ma mère en quelque part.
Ah, OK. Ouais.
Alors, à partir de là...
Tu l'avais trahi.
Je l'avais trahi. Mm-hmm. Et à partir de là, le regard posé sur moi, les façons d'être. Là, mes parents ont commencé à se séparer à répétition. Là, puis bon,
est-ce qu'il te frappait encore à cette époque-là?
Non. D'accord. Non, plus à ce moment-là.
Donc, ça a été de la violence après de l'abus sexuel. Et puis après, c'était...
Après, ça a été la violence psychologique.
Psychologique, d'accord.
Psychologique, tu sais.
Tu as goûté, Manon?
Chez nous, on pouvait pas... Mettons, si je voulais avoir un biscuit, oui. ben il était sur le frigo. Il fallait que ma mère mette un montant d'argent sur le frigo pour que j'aie droit d'avoir le biscuit.
Okay,
c'est ça, il y a tout ce qu'il me disait sur ma mère. Veux pas, c'est une violence comme ça.
Oui. Il y a quelque chose aussi dans ton roman, Manon, où tu dis, et je te cite, « J'ai eu honte d'avoir posé les gestes et gardé le silence. J'ai peur aussi d'avoir peut-être, ne serait-ce qu'un moment, retiré un certain plaisir, le temps d'une caresse. »
Comme je le disais tout à
l'heure.
On
n'en parle pas beaucoup de ça.
C'est ça. Les enfants,
il y a beaucoup
les enfants, j'ai travaillé en garderie, les enfants se touchent naturellement. Mm-hmm. Quand tu es toute seule... À recevoir quelque chose comme ça, à te retrouver dans une situation comme ça. Longtemps, tu te poses la question, tu penses que c'est toi
oui.
qui n'est pas normal.
Bien sûr.
Et tu t'en veux. C'est pas comme un viol où il y a une agression totale, c'est clair. Là, ça dure. L'inceste, tu y reviens.
Oui, puis ça vient du parent en plus. Hein?
Ça vient
donc,
du parent.
Donc, la confiance est cassée.
La confiance est cassée, exactement. c'est ça, c'est que t'arrives si long avant de faire le ménage dans le casse-tête.
Mm-hmm.
Contrairement à un viol qui est un moment, qui est une chose, qui est une agression. Ça, ça dure longtemps, c'est sournois, ça nous suit pendant longtemps.
Et quand on s'est parlé de ce passage-là, tu me disais, c'est important, quand on dit éprouver un certain plaisir, ce n'est pas d'avoir hâte à la prochaine fois. Il ne faut pas confondre. C'est très éprouver du plaisir pendant des attouchements.
Parce qu'au début, tu vois, quand je remets l'image de regarder un Playboy, tout ça, puis d'avoir ton père qui te caresse, en quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas violent là-dedans. Mm-hmm. Là, veux pas, tu es dans un état, veux pas qu'il y ait une sexualité, en quelque part. Mais c'est après, quand il demande de toucher, que là, tu sens que ça va pas, que ça marche pas, que tu n'as pas ce qu'il faut. Il y a une technicalité là, qui n'est pas là, tu sais,
uh-huh.
qui suit longtemps après. Alors, c'est ça. Puis, tu sais, l'amour, ça se ressent pas. L'amour, ça s'apprend pas, ça se ressent. C'est ça que je veux dire. L'amour, ça, vraiment, quand ton père te regarde avec un regard qui t'aime, t'es bien. Mais quand tu deviens quelque chose qui est négatif, tu sais plus c'est quoi les barèmes de l'amour après. Ça devient mélangé dans ta tête. Fait que l'amour, en quelque part, tu sais, moi, j'ai comme pas appris comment c'est. L'amour, juste aimer quelqu'un, juste rentrer en contact, juste me sentir bien, me sentir estimée, me sentir... Ça, là, ça m'a pris une vie pour me faire un coffre à outils, puis trouver...
Et est-ce que tu crois qu'il y avait des gens qui s'en apercevaient? Je sais pas, oncle, tante, ta mère ou...
Honnêtement.
À l'école, il y a personne...
Oh non, surtout pas à l'école.
Non? Les enseignants voyaient pas
que t'étais... On n'était pas dans une époque comme ça. Ah non, j'ai jamais eu un... Personne qui m'a demandé comment ça allait, pour quoi que ce soit. Non, personne s'en est rendu compte. Je suis certaine de ça.
Ce qui t'isolait davantage.
Oui, effectivement. Et on faisait comme si ça n'existait pas de toute façon. Je sais que ma mère, qui a quand même été très violentée, bon, mon oncle m'a dit à un moment donné qu'il avait remarqué qu'il était poqué. Mais encore là, il y avait quelque chose de tabou. Puis... La mère, la personne qui est violentée, là, elle n'a pas envie d'en parler. Elle a honte de ça aussi. Oui.
C'est
pas une question de cacher, c'est que tu as honte. Fait que la mère qui reçoit des baffes ou qui vit quelque chose qui n'a pas de sens, elle le sait que ça n'a pas de sens, mais pas capable de s'en sortir. Faut pas juger les gens qui restent dans une situation parce que... Puis tu crois que ça peut aller mieux, profondément.
Oui.
Il était pas fou à temps plein, là.
Non, c'est ça. Mais ta mère n'a pas vu le changement dans son attitude que... Au début, il était violent avec toi, puis après, il était gentil, parce que j'imagine que pendant la journée, il devait être gentil aussi avec toi. Donc, elle ne voyait pas qu'il avait changé d'attitude, qu'il était moins violent avec toi. Elle n'a pas remarqué ça.
C'était une période épouvantable pour elle. Je crois que cette année-là, de ma deuxième année, au niveau de la violence, puis de ce qui se passait à la maison, j'étais petite, là, mais pour elle, c'était une époque épouvantable.
Je le crois.
Alors, elle était... Puis, elle est... Je pense pas qu'elle pouvait s'imaginer jusque-là. Et elle se mettait tellement en paravent pour essayer de me protéger qu'elle n'allait pas jusque-là.
Et à 13 ans, tu as eu ton premier copain.
Oui, un copain, ça a pas pu durer très longtemps parce que lui était beaucoup plus vieux que moi.
Oui, il avait 19 ans.
Et je me souviens, j'étais gardienne, là, j'étais en train de garder un enfant. Puis à un moment donné, lui, il est venu me voir. Puis là, on s'est mis à se coller un peu plus. Et... Je sais pas pourquoi, je me sentais bien avec lui. Ça faisait pourtant pas longtemps que je le connaissais. Puis je lui en ai parlé.
Et il t'a demandé si tu avais déjà fait l'amour.
Oui, il m'a demandé si j'avais fait l'amour. Et
j'ai dit oui.
J'ai dit oui, mais pas une vraie première fois. Fait que là, il m'a demandé c'était quoi une vraie première fois. Alors là, lui, il a su. J'en ai parlé un peu, mais c'était. Je suis pas allée très loin, je suis pas allée très profond. Je l'ai juste comme verbalisé.
Que c'était ton père.
Oui. Et rapidement, ma mère s'est rendue compte que j'avais une relation avec un garçon beaucoup trop vieux pour moi, ce qui est tout à fait correct. Elle est venue à un moment donné nous prendre sur le fait dans un restaurant où je le rencontrais. Et sur le champ, elle lui a dit de laisser sa fille tranquille, que ça n'avait pas de sens, qu'il était trop vieux. Et il a dit oui, c'est correct, je m'en vais, c'est bon. Mais avant, je dois vous dire que Manon a des choses à vous raconter, qu'elle a subi l'inceste par son père quand elle était petite. Et là, tout s'est écroulé dans la tête de ma mère à ce moment-là. Parce qu'elle l'a comme reçu d'une façon... Elle l'a reçu d'une façon comme un... comme un char en pleine face. Là. On est revenu à la maison.
Oui.
Elle a appelé mon père, la mère de mon père. Elle a hurlé, elle a crié. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'était un état de crise où moi, j'étais juste mal. Je ne savais pas comment.
Oui.
Et après, on a tout refermé. Après cet épisode-là, on a tout refermé. C'était un épisode où le divorce était en train de se passer, d'accord. Où il y avait déjà des menaces. T'sais, ma mère a déjà eu des menaces de mort après le divorce puis tout ça. Là. Fait que c'est comme si à un moment donné, dans ce gros brouhaha-là, là, ma mère, elle a dit ce qu'elle avait à dire aux personnes précises. Et après ça, on a fermé le truc. Et après ça,
Toi et elle, les deux, vous avez fermé.
On a toutes les deux fermé. Okay. Moi, j'ai grandi comme dans une espèce d'urgence à... On se tient debout puis on avance. Puis on, tu sais, c'est comme quand tu fais la guerre, là, t'as pas le temps de te regarder les petits bobos ses genoux, là.
T'avances.
Fait qu'on avance. Ouais. Mais c'est juste que nous autres, on a comme avancé tout le temps après. On n'a jamais arrêté pour regarder autre chose. Puis ma mère, elle a cette force-là. Moi aussi, je regarde ma mère aller, elle a cette force-là. T'avances. Puis moi, il y a des choses qui sont dans ma tête encore, qui sont pas réglées. Mais elle avance, puis il n'y en a pas de problème, puis il n'y en a pas d'apitoiement. Puis je ne peux pas y en vouloir. Là, elle a sa façon de gérer ça. Ma mère, c'est une personne géniale, tu sais. Mais moi, je me sentais coupable aussi de revenir sur ça.
Oui, fait que tu cachais ça. Et à 18 ans, tu as eu ta première fille.
Ben oui.
Et tu es devenue monoparentale, sur l'aide sociale.
Oui.
Et après, tu as rencontré un homme assez extraordinaire. Et tu as eu une deuxième fille à l'âge de 30 ans. Donc, tu es mère de deux filles.
Oui.
Et tu avais une bonne amie qui, en fait, qui est décédée aujourd'hui, mais qui t'avait fait promettre de dénoncer ton père.
Oui, effectivement.
Donc, c'est 35 ans plus tard.
Oui, c'est pas mal d'années plus tard, effectivement.
Que t'as décidé
de
dénoncer.
Elle, juste avant de mourir, elle m'a demandé plusieurs trucs, mais entre autres, elle m'a dit, va chercher une justice puis dénonce ton père. Et je l'ai fait, mais encore une fois, dans un temps de brouhaha, de vie. On dirait, quand j'y repense, ma vie a bouillonné beaucoup. Je l'ai fait à un moment donné. Je suis allée faire ma déposition après la mort de ma copine. Je l'ai faite parce qu'il fallait que je le fasse, mais quand je suis sortie de là...
Et là, je t'arrête deux petites secondes parce que dans ton roman, tu fais dire à Laurence, tu ne peux pas, la dame qui t'a accueillie, en fait, elle dit, tu ne peux pas porter plainte pour ton enfance, ma belle, ni pour la violence physique si ça fait plus de 2 ans. Tu ne peux pas porter plainte pour la violence faite à ta mère ou à ta famille non plus. Il te reste attouchement sexuel. Est-ce que tu veux porter plainte contre ça?
Voilà.
Et là, tu as dit oui.
Et puis, c'est tel quel. Hein? C'est tel quel, comme c'est dans le livre. Là. C'est vraiment ça. Et là, j'ai dit oui, un peu perdu, parce que
tu
étais accueillie là, par une personne. En tout cas, c'est particulier.
Oui, il s'en fout.
Et là, on t'envoie deux policiers qui me montrent au deuxième étage, qui m'assoient dans une petit cubicule, et le policier me dit « Ben écoute, moi, j'ai jamais fait ça. Je sais pas trop comment remplir la déposition. À ta minute, je vais aller demander à mon ami. » Il part, il revient. Mais là, toi, t'es là. Tu te dis « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, là? »
Ouais, t'as un peu des regrets.
On revient tout seul. On revient encore avec le fait que c'est banal, là. C'est niaiseux, là. 35 ans plus tard, voyons donc. Et là, je me dis « Mais qu'est-ce que je fais, là? » Mais là, tu continues, là. Puis moi, j'ai une demande de mon ami qui est parti. Je continue, je fais ma déposition. Et quand je sors de là, je me sens coupable. Je me sens victime pour une première fois. Je me sens coupable de ressortir quelque chose. Là, tu dis, OK, là, ma mère, elle va revivre ça, elle va repenser à ça. Lui, qu'est-ce qui va se passer avec mon père aussi? Parce que mon but, moi, c'était pas d'accuser. Il y a quelque chose dans la déposition aussi que je voulais pas tant accuser. Je voulais juste déposer mon histoire quelque part. Je voulais juste...
La donner à quelqu'un d'autre.
Ben, je voulais pas juste la porter sur moi.
C'est ça.
Fait que j'ai pas aimé ça.
Et tu as aussi, entre-temps, confronté ton père. En fait, tu lui as parlé, puis il a avoué qu'effectivement, et il t'a demandé pardon.
Oui. En fait, je l'ai rencontré à un moment donné par hasard. Et lui m'a demandé qu'on ait une rencontre, juste nous deux. On s'est rencontrés.
Parce que vous aviez plus de contact.
On n'avait plus aucun contact. On s'est rencontrés. Et... au moment où on s'est vu, lui était à l'étape où il avait besoin de savoir que je l'avais pardonné. Moi, j'étais l'étape avant. Moi, ce que j'avais besoin, c'était de recevoir son histoire. J'avais besoin de recevoir, même pas, j'étais même pas rendue au pardon. Ce que j'avais besoin, c'était de savoir qu'on avait la même histoire, que j'avais rien inventé. Et il m'a tout dit. les endroits, le où, le quand, le pourquoi. Il a recommencé à parler avec le discours de « ma mère était une folle » et tout ça. Et c'est ça que j'avais besoin d'entendre.
Oui.
Alors le « oui », là, c'était pas « je te pardonne », c'était « oui, ok, c'est ça ».
Oui, c'est ça. Et on, le « oui », t'es pas pour la bonne chose.
Non, c'est ça.
Malheureusement, le temps passe à une vitesse folle. Écoute, c'est finalement, la déposition a été entendue et il a été, en fait, tu as été reçu devant un juge et tout. Et finalement, il n'a pas été condamné à cause d'un mot.
À cause d'un mot, oui. Tu sais, quand tu vas déposer ton histoire comme ça devant la cour, on dirait qu'on... Le feeling que j'en ai, c'est qu'ils apprennent et il y a un jeu qui se passe. Mm-hmm. Et toi, tu fais plus partie. Alors, c'est un jeu de mots, c'est un jeu de pouvoir entre un avocat puis un procureur de la couronne avec eux. Ouais. Alors, c'est ça. À un moment donné, l'avocat me répétait toujours, est-ce qu'il est un monstre? Et moi, je disais, ben non, il n'est pas un monstre, il est malade. Il est juste malade. Et à un moment donné, quand ça a été le temps du témoignage de ma mère, qui, elle, n'avait pas fait les démarches de son côté, qui n'avait pas travaillé là-dessus, qui se faisait jouer dans le cerveau, dans ses souvenirs, puis tout ça, puis qui était tremblante, puis qui était tout à l'envers, à la question « Est-ce que monsieur est un monstre? » Ma mère a répondu « Oui. » Et c'est ça, la virgule, qui a tout fait basculer.
Et tu dis « Je ne recommande pas nécessairement aux femmes de dénoncer avec le système juridique que nous avons présentement. » Écoute, on doit se quitter sur ça. Ça me fait mal au cœur, mais bon. Alors, je veux que tu me parles un peu de ton livre. En fait, ton livre s'appelle « Toucher » dans le sens de…
Toucher.
Toucher. Donc, tu as été touchée.
Par la violence physique, psychologique
et sexuelle aussi. Et tout. Et ça sort en février sur Amazon.
Oui, en fait, je le publie par Amazon parce que j'ai toujours fait cavalier seul dans la vie puis j'ai besoin que ça sorte maintenant. Je ne peux pas attendre un grand mécanisme, tout ça. Il faut que ça sorte maintenant. J'ai une urgence.
Merci beaucoup. Manon Vincent, merci infiniment. Tu vas aider plein de femmes et d'hommes aussi qui ont vécu l'inceste.
Merci.
Après la pause, restez avec nous. On parle avec Pierre Faubert, psychologue, clinicien, notre chroniqueur.
Vous écoutez Terre de femmes avec Marthe Saint-Laurent.
Vous pouvez écouter nos émissions sur le site internet de Canalem, sur vusezvoix.com et en balado. En deuxième partie de l'émission, nous recevons Pierre Faubert. Bonjour Pierre, bonne année.
Oui, merci à toi aussi Marthe.
Et Pierre, le sujet est vaste, hein, puis il y a beaucoup à dire, puis... Le témoignage de Manon Vincent est révélateur dans la dynamique de l'inceste, c'est-à-dire, tu as vu comme moi la sortie du livre de Camille Kouchner, tu sais, la Familia Grande. Le sujet est toujours d'actualité et la dynamique de l'inceste est une dynamique particulière, c'est-à-dire qu'elle est, c'est vraiment l'omerta, hein. C'est le clan qui garde le silence, qui... Il y a des gens, des fois, autour qui le savent. Dans le cas de Manon, non. Mais dans la plupart des cas, il y a des gens qui le savent et personne ne dit rien. Mm-hmm. C'est...
Ouais, en fait, c'est comme une montagne, c'est comme un éléphant. On ne sait pas par quel morceau, par quelle partie commencer. C'est vaste. C'est un sujet, comme tu dis, Marthe, qui est très vaste, mais en même temps... je pense qu'il faut aller à la racine du mot pour peut-être saisir et puis être vraiment, je dirais, concret parce que on peut réfléchir et puis édulcorer le sujet par des réflexions savantes, scientifiques, statistiques, en fait, tout ce qu'on veut. Mais je pense que le mot qui me vient, moi, c'est sacrilège. Et puis, pourquoi je dis ça? Parce que le mot inceste, étymologiquement, ça veut dire souillir. Ça vient du latin incesto, qui veut dire rendre impur.
OK.
Donc, c'est
pour ça que les victimes se sentent sales.
Oui, mais elles sont salies.
Oui,
elles sont
oui,
salies.
Oui.
Elles ont raison de mm-hmm. se sentir sales. Et là, on ne parle pas de fluide, hein. C'est, je ne veux pas non. être trop graphique, là, mais on ne parle pas. C'est pas ce type de souillure, parce que sur le plan psychologique, on n'est pas dans les choses matérielles nécessairement, mais c'est l'identité. L'identité qui est sacrée, et c'est pour ça que je dis que associé à l'inceste, pour moi, c'est le sacrilège. Parce que c'est le viol ou un vol même. Le sacrilège, c'est le vol dans le temple. C'est le vol dans le sacré.
Mm-hmm.
Et nous sommes sacrés. Et l'enfant est sacré.
Oui.
Et nous avons des parties de nous qui sont sacrées. Et donc, on vient nous voler, on vient profaner oui. ce qui est sacré. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une souillure.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que le corps humain qui est, on le dit longtemps, mais je pense qu'il faut revenir un peu à cette notion pour respecter la dignité, c'est qu'il y a une dimension de sacralité qui est associée au corps. Et lorsque nous traitons le corps avec un mépris et avec une intention, je dirais, de posséder
oui.
Par un pouvoir, plutôt que par une force, parce qu'il y a une différence entre la force
oui,
et le
ça.
Pouvoir.
Oui.
Le pouvoir, c'est une sorte de domination.
Oui, c'est ça,
que
la domination.
C'est ça, tandis que la force, oui. ça peut être là aussi pour protéger, pour entourer, pour élever même.
Mm-hmm.
Donc, il y a là, pour moi, là, vraiment quelque chose de sacré, de profond, qui touche à l'identité de la personne. Oui. Et ce que j'ai remarqué, c'est que... Oui, les effets de ces moments d'intimité violée font des vagues, si vous voulez, qui vont durer toute une vie et qui vont affecter les familles, comme on le voit maintenant avec le livre de Mme Kouchner. C'est qu'il y a même toutes les familles. Alors, même ce qui s'est passé quand on était enfant, même, je dirais, dans le préconscient,
oui.
Ça aura des effets sur la suite. Autant dans la famille immédiate que dans les familles qui suivront.
Et bizarrement, ça revient comme à la victime, la responsabilité
oui.
de dénoncer. Non seulement elle vit la culpabilité et de la honte d'avoir subi ça, mais en plus, elle devient responsable de dire ou de ne pas dire.
Oui. En fait, il y a... C'est pour ça que c'est complexe, puis c'est une perversion, parce que, dans le fond, les gestes posés, caresses, amour, en fait, tout ça, amour, oui. Faut passer vite là-dessus, là. Mais c'est associé à une affection, à une affection qu'on manifeste envers une personne. Alors donc, c'est là qu'est la perversion. C'est la perversion des choses. Oui. C'est pour ça que c'est tellement difficile après, comme disait Manon, c'est difficile après de revivre une intimité sexuelle
oui.
quand cette dimension-là a été désacralisée.
Oui, oui. Saccagé,
oui, oui, c'est exactement. On est allé dans le temple et puis on a saccagé
oui.
le temple.
Mm-hmm.
Et c'est pas juste physique, là. Même si l'image physique, physiologique, si vous voulez, elle peut s'y appliquer. Mais il reste qu'il y a le temple qui est beaucoup plus profond, c'est-à-dire le temple de mon identité, mon je.
Oui, voilà.
Et j'ai remarqué qu'il y a des personnes, parce que je reçois des personnes, des femmes qui ont été agressées pendant des années. Et ce qu'il y a dans ça, c'est pas le plaisir que la femme ou la fille à ce moment-là, ou l'enfant va vivre. Il y a des moments de plaisir, et ça c'est difficile à l'avouer, parce ouais. qu'on veut pas l'avouer avec une association à quelque chose qui est ignoble,
hein,
et honteux. Mm-hmm. Mais parfois, oui, et une fois que ça c'est avoué, eh bien c'est comme si on entrait dans une plus grande vérité.
Ouais.
Et il y a une plus grande liberté de pouvoir parler de ce qui s'est passé. Alors donc, à ce moment-là, ce qui ressort aussi dans ce que j'entends des témoignages des personnes qui viennent me rencontrer et qui ont subi ce genre de viol, je dis viol parce que c'est un viol. Quand on ne peut pas demander à un enfant un consentement, il n'y a pas de consentement.
Non,
l'enfant ne peut pas donner de consentement. C'est un viol. C'est un abus de pouvoir.
Oui.
Et donc, à ce moment-là, on domine. Alors, mais ce que j'ai remarqué, c'est que ces enfants-là, ils veulent faire plaisir.
Oui.
Et c'est là qui est le problème.
Oui.
Et
on ne veut pas décevoir nos parents.
Ben voilà. Et c'est justement, quand on parle d'un crime de lien, Mais c'est ça. Oui. C'est un crime de confiance. Mm-hmm. C'est un crime du lien de confiance lien qui devrait y avoir à l'intérieur de la famille. Mm-hmm. Comme disait Lévi-Strauss, que la famille, c'est vraiment le point central, c'est le fondement d'une société, mm-hmm. c'est la famille. Alors donc, si on est dans un lieu qui est aussi un lieu sacré, et là, évidemment, là, j'espère que les gens qui m'entendent, là, ils parlent de religion tout le temps. Non, je ne parle pas de religion. Je parle de ce qui est séparé du commun. Oui. Autrement dit, ce qui est intime. Mm-hmm. Le sacré, oui. c'est ce qui est intime. Oui. C'est plus intime. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a un problème à ce moment-là d'identité. Mm-hmm. Qui suis-je? Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont vivre beaucoup. J'ai pas les statistiques, mais c'est ce qu'on appelle le trouble de la personnalité limite.
Oui, d'accord.
Hein, mm-hmm. Le borderline, ce qu'on appelle le borderline. Oui. Mais c'est quoi ça, le borderline? Ben, c'est justement la difficulté d'établir des relations intimes avec une personne. Alors, c'est pour ça que la personne va chercher à travers toutes sortes de relations des manières de combler un vide. C'est quoi le vide? Ben, c'est le vide du père
qui
est absent. Oui. Et là, on va dire, mais non, mais le père, il est là. Mm-hmm. C'est lui qui pose les gestes. Mais non, c'est l'homme qui est là.
Exactement,
c'est pas le père.
C'est
qui
pas
est
le père. Écoute, on parle d'inceste. Moi, j'aimerais bien qu'on. L'inceste, c'est vraiment avant l'âge de la majorité. Avant l'âge de 18 ans, c'est ça l'inceste.
Ah, j'ai lu des choses, moi, qui peuvent aller jusqu'à l'âge de 30 ans.
Ah oui, d'accord.
Oui.
OK. Il faut que ça vienne, pas nécessairement d'un parent, mais c'est souvent dans l'entourage.
Hein. En fait, c'est...
Famille, père.
Oui.
Mais il y a aussi un petit 15% que j'ai vu de Statistique Canada qui venait d'étrangers aussi, mais sur des enfants avant l'âge de 18 ans.
Non,
ils classent ça dans l'inceste.
Oui, mais on peut même classer dans l'inceste, par exemple... une pénitente qui vient rencontrer son confesseur et puis le confesseur va abuser d'elle. Mais là, on n'est pas... c'est pas un enfant, là.
D'accord.
Hein? Alors, et puis, ça peut être dans la vingtaine. Alors, c'est... En fait...
Puis c'est quoi la différence à ce moment-là?
Ben, c'est l'autorité.
OK.
C'est toute personne...
Donc, l'inceste, ça va avec l'autorité.
Oui, ça va avec
l'autorité.
Mais
c'est important, hein?
C'est un abus de position d'autorité.
D'accord.
Parce que la personne est en position d'autorité. Ce qui veut dire que il y a déjà un a priori qui est que la personne qui a une autorité quelconque...
Mm-hmm. Et qui en abuse.
Ben, l'a priori, c'est que cette personne-là est là pour moi.
Oui.
Elle est là pour m'aider. Mm-hmm. Elle est là pour m'accompagner. Elle est là pour que si jamais je suis dans le trouble, elle va être là pour me protéger.
Mm-hmm.
Mais là, c'est tout le contraire qui arrive. Alors, ce qui laisse l'enfant ou la personne... dans un état de désarroi.
Oui.
C'est même à l'intérieur de la relation de ce qu'on appelle l'alliance psychothérapeutique. Si un psychologue ou une psychologue abuse de la personne qu'elle rencontre, c'est parce que nous sommes dans une certaine autorité, parce que nous avons des formations, puis des connaissances, des expériences qui devraient être là pour être au service des gens et non pas pour dominer les gens.
Mm-hmm.
C'est pas parce que j'en sais un peu plus que l'autre sur un certain sujet, parce qu'il y a d'autres personnes qui savent beaucoup plus que moi sur bien des sujets, mais il reste que à ce niveau-là, surtout au niveau de l'intimité et de la relation, parce que l'inceste, c'est un crime de relation aussi.
Oui.
Hein, c'est la perversion de la relation, mm-hmm. dans laquelle je peux développer mon identité. Alors, c'est pour ça que les gens qui souffrent de troubles de personnalité limite, eh bien, ils ont une difficulté avec le « je
mm-hmm. ».
Le « je ». Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a cette espèce de relation sadomasochiste, la relation sadomasochiste entre le surmoi et le moi. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que le surmoi, c'est l'intégration de tout ce qui est valeur autour de moi. Les premières sources de ces valeurs-là, ce sont mes parents.
Oui.
OK? Alors donc, ce que je fais, c'est que je vais introjecter.
Oui.
Je vais, mm-hmm. Malgré moi, là, je ne fais pas un effort. Ce n'est pas volontaire. Là. C'est inconscient et c'est involontaire. Donc, d'une manière ou d'une autre, je vais introjecter. Comme je vais respirer l'air dans ma maison, dans la maison familiale, bien, je vais aussi... aspirer ou introjecter
ce que je reçois comme
valeur, mm-hmm. et puis comme émotion, puis toutes ces choses-là. Et pas juste de la famille immédiate, mais dans ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle, je peux aussi être affecté par ce qui s'est passé dans ma famille,
mm-hmm.
En amont, il y a 100 ans.
Oui. Mais Pierre, je voudrais qu'on revienne un peu à l'histoire de Manon, c'est-à-dire...
Oui.
l'enfant, la jeune fille ou le jeune garçon, mais dans ce cas-ci, c'est la jeune fille, oui, qui est abusée sexuellement, ça donne quoi au niveau de la sexualité plus tard? Est-ce que ce sont des femmes qui sont plus ouvertes, qui sont plus, tu vois, qui n'ont pas de tabou face à la sexualité, qui, tu vois, comme leur corps n'a pas beaucoup de valeur, ou est-ce que je me trompe?
Non, pas tellement. Mais c'est-à-dire que le corps, c'est un instrument. Hein? Donc, mon corps, il est instrument pour faire toutes sortes de choses. Hein? Si je parle, c'est parce que j'ai eu un instrument qui s'appelle la bouche. Et puis, derrière cette bouche-là, il devrait y avoir un cerveau quelque part. Et puis, donc, etc., etc. Donc, mon corps, c'est un instrument. C'est un instrument qui devrait être là pour exprimer qui je suis dans mon identité réelle, profonde. Et donc, à ce moment-là, si mon corps est instrumentalisé, il n'est plus mon instrument.
Ouais.
Il appartient à un autre ou à une autre personne. Et donc, à ce moment-là, c'est comme quelqu'un me disait tout à l'heure en thérapie, je suis comme le petit chien là, qui est sur les cuisses de son maître ou de sa maîtresse, et puis qui est là, et puis mon seul rôle, c'est d'être là. Mm-hmm. Alors donc, si l'enfant a appris que en posant tel ou tel geste, je vais faire plaisir à cet homme qui, comme dans le cas de Manon, puis dans bien des cas, n'est pas satisfait sexuellement ou émotionnellement avec sa conjointe.
Oui.
Donc, ben voilà, il y a quelqu'un là qui est là et puis qui est probablement bien plus joli que la femme qui est plus âgée et puis que, bon, pas aussi appétissante et puis intéressante. Alors là, on a cet enfant, cette innocence, qui, justement, est là, est disponible. Et donc, je vais instrumentaliser cet enfant qui devient un objet, et l'enfant va introjecter le besoin, pas le désir, le besoin de plaire. Mm-hmm. Et donc, dans les relations sexuelles, ça va être surtout ça. Mm-hmm. Et puis, peut-être que quelque part, il y aura le fantasme du père abuseur dans la relation sexuelle avec la personne avec laquelle la femme est en ce moment-là. Mmh. Un peu comme on a entendu dans un autre témoignage de la femme qui s'est faite violer, est allée chercher quelqu'un un peu pour essayer de guérir ce qui s'était passé dans un viol. Alors là, c'est que les relations sexuelles, ce qu'on oublie, c'est que c'est pas juste une relation corporelle. Mm-hmm. C'est une relation
émotionnelle,
ouais, une relation d'âme. Ouais. Et s'il n'y a pas la communion des âmes, eh bien, même s'il y a une magnifique relation sexuelle, eh bien, il y a des femmes qui me disent, eh bien, moi, je n'ai jamais joui, j'ai jamais eu d'orgasme parce que j'ai été abusé sexuellement par mon père. Alors donc,
encore, j'ai l'impression de la honte.
Non, c'est un sentiment de
une fermeture.
Oui, c'est ça, c'est une fermeture, c'est-à-dire que je lâche pas. Autrement dit, je m'abandonne pas. Hein? Dans le faire amour, eh bien, c'est plus faire amour que faire l'amour.
Oui.
Dans le faire amour, il y a beaucoup plus le besoin d'un abandon dans une confiance que l'autre m'aime. Thank you.
Nous écoutions Alexandra Stranitsky, Overturn. Alors, nous sommes de retour. Je rappelle le sujet de l'émission aujourd'hui, sujet délicat, l'inceste, le grand secret familial, avec nous, Pierre Faubert, notre chroniqueur, psychologue. Donc, Pierre, les enfants qui osent dénoncer ou parler à leur mère, souvent la mère va prendre la part du mari. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé avec, avec Camille Kouchner. C'est-à-dire, la mère refuse de voir que son mari puisse abuser de son enfant. Et pour moi, ça fait pas de sens. Parce que, me semble, quand on porte un enfant pendant 9 mois et tout, il y a le lien plus fort, me semble-t-il, avec un enfant qu'avec une personne étrangère, en fait, qui n'est plus étrangère, mais qui l'était. Et de ne pas vouloir croire son enfant, pour moi, ça me dépasse. Et j'imagine qu'il y a une partie de cette raison-là qui fait en sorte que les enfants ne parlent pas.
Oui. En psychologie, on appelle ça une dissonance cognitive, c'est-à-dire que on ne peut pas cognitivement reconnaître la véracité ou la réalité de la chose qui est devant nous. Alors, on est en dissonance. Mm-hmm. Ça ne résonne pas.
Okay.
Alors, on est incapable d'accueillir ça. Alors, on appelle ça la dissonance cognitive. Ça ressemble beaucoup aussi au déni.
Oui.
Alors, mais il y a aussi des intérêts là-dedans, c'est-à-dire la famille. Il y a des femmes qui, malheureusement, si elles ne sont pas dans un milieu familial, elles sont toutes seules et puis elles n'ont pas beaucoup de moyens de subsistance. Alors donc, elles souhaitent être certaines, disons. Je dirais pas qu'a priori la mère va dire que sa fille, elle est menteuse, mais c'est comme s'il y avait un mécanisme pour essayer de protéger la cellule familiale.
Oui, alors, à tout prix.
À tout prix, oui, c'est ça, parce que c'est une source de survie. Hein, puis, bon. Mais aussi parce qu'elle peut avoir peur des conséquences, étant donné que si cet homme-là est déjà plutôt violent et agressif, oui. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Mm-hmm. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Alors donc, ce qui va arriver, et ça, je l'ai entendu, c'est que la mère va trouver des raisons plus rationnelles pour expliquer, ben écoute, je t'ai déjà vu là, mettre ta main dans ta culotte, là. J'ai déjà vu que tu jouais là, comme ça avec toi-même et puis tout ça. Mm. Et puis, peut-être juste... que tu es en train de fantasmer, là. Enfin, la mère mm-hmm. dira pas peut-être ça, la chose de cette façon-là,
mais
tu es en train
l'idée.
D'inventer des histoires. Et puis aussi le fait que on pense que les enfants, ils racontent des histoires parce qu'ils sont dans un monde d'enfants. Et puis, on pense que c'est pour ça qu'on raconte des histoires à nos enfants, mais...
Oui, mais ce n'est pas des histoires qu'ils peuvent inventer, ça.
Non, exactement, parce que c'est comme
si
quand...
Si tu ne l'as pas vécu,
c'est
tu ne sais pas quand tu as 7-8 ans.
Quand un enfant a des obsessions de pénis, si une fille a des obsessions de pénis, mais là, écoute, c'est parce que tu as déjà vu ça quelque part.
Exactement,
oui. On ne vient pas au monde avec ça, là.
Mm-hmm.
Fait que, mais encore une fois, il y a de la difficulté à croire parce que, premièrement, si la femme... Puis aussi, dans le cas de Kouchner, eh bien, le monsieur en question, monsieur Hébert, non?
Comment je cherche son nom.
Oui, en tout cas. Il était très connu, un homme de grande distinction.
Oui, dans la grande sphère politique.
C'est
oui.
ça, exactement. Mm-hmm. Donc, il y a tout l'image, là.
Oui.
Alors, si la mère accepte ça, ben là, il y a des conséquences à ça.
Mm-hmm.
Et quelles sont les conséquences? Donc, ça veut dire que l'homme que j'ai choisi, moi, je vais avoir l'air folle là-dedans aussi, hein, parce que j'ai choisi quelqu'un qui devient un abuseur et puis un pédophile.
Oui. Et est-ce que aussi la mère se dit pas, l'enfant est tellement, comment je pourrais dire, sans défense, l'enfant fera rien, t'sais, l'enfant quittera pas, l'enfant, puis si la mère dit non, ça n'a pas existé, ben l'enfant va arrêter, donc elle a peut-être plus le contrôle, elle aussi, de gérer l'enfant que de gérer le mari.
Parce que
le mari le sait, lui, il peut partir, mais l'enfant ne partira pas.
Oui, ce que j'ai remarqué dans les cas que j'ai rencontrés, c'est qu'il y a un climat.
Oui, le climat d'inceste qu'on appelle déjà en partant. Hein?
Et puis, malgré le fait qu'on en soit consciemment participant ou pas, eh bien, il y a des gens qui ferment les yeux.
Oui.
Et il y a même des gens, j'ai vu ça moi, que la mère va vivre vicarialement un inceste avec son fils
oui.
à travers sa fille.
Oui.
Mais c'est incroyable.
Oui, c'est tordu, ça.
Ah, ben oui. Et puis, mais c'est parce qu'on est dans un climat comme ça. On
oui.
est dans un c'est toute la famille qui est mm-hmm. dysfonctionnelle. Là.
Oui.
Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de chance pour que la petite fille s'en sorte. Elle devient le bouc émissaire et elle devient aussi l'agneau sacrificiel.
Oui.
Hein? On, mm-hmm. on va se servir d'elle.
Oui.
Et puis, c'est elle. Puis, je le sais, il y a des gens qui viennent me voir, puis ça fait 40 ans de ça.
Oui. Mm-hmm.
Et elles emportent encore les séquelles, oui. puis elles essayent encore de démêler leur vie.
Est-ce qu'on peut en guérir, Pierre? Est-ce qu'il y a une façon de se sortir
ben,
de ça?
Oui.
On peut pas s'arracher notre passé. On peut pas.
Non. C'est pour ça que, ben, là, je touche un coup, quelque chose là, qui est vraiment. Il n'y a que l'amour, puis là, je parle pas de sexe, je parle de l'amour. Il n'y a que l'amour de communion qui peut guérir des blessures relationnelles.
C'est-à-dire de nous à nous ou de nous avec les autres?
De nous avec les autres qui vont faire en sorte que je deviens aimable.
Mm-hmm.
Tu sais, le problème, c'est qu'on veut être plus admiré que d'être aimé. Alors, il y a une différence entre être admiré et d'être aimé.
Oui.
Quand on est aimé, c'est pas parce qu'on est toujours à notre meilleur, puis qu'on est bien beau, puis qu'on est bien fin mm-hmm. ou bien fine, c'est parce qu'il y a aussi des vulnérabilités
mm-hmm.
que je deviens aimable. Je suis aimable pas parce que j'ai fait des grandes choses.
Oui.
Je suis aimable parce que je suis qui je suis. Alors, c'est une relation, et c'est dans la relation que l'autre me découvre et que je me découvre et je découvre l'autre.
Mm-hmm.
Alors, c'est le fameux jeu es-tu de Martin Buber, et puis la relation psychothérapeutique, elle est une occasion, hein, la relation mm-hmm. psychothérapeutique, elle est une occasion de guérir la blessure relationnelle. C'est pour ça que Rogers, Carl Rogers disait, il y a très longtemps de ça, là, il n'est plus tellement populaire, mais il parlait de l'amour inconditionnel.
Oui.
Que dans la thérapie, mm-hmm. Il fallait qu'il y ait un amour inconditionnel. Il fallait que la personne, puis je le dis aux gens qui me rencontrent, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez.
Oui, et je ne serai pas
et pouvez.
Oui. Mm-hmm.
Tout. Et je dis, mm-hmm. quand ouais. je dis tout, là, n'importe quoi, même au risque d'avoir l'air fou, là,
mm-hmm.
c'est pas ça. On n'est pas ici pour essayer de voir si vous êtes folle ou fou.
Oui.
On est ici pour voir quelle est la nature mm-hmm. de la blessure et qui est là. C'est qui est là?
Mais la façon dont je t'entends parler, puis on dirait qu'il n'y a pas de au niveau de la sexualité, c'est vraiment, ça passe par l'amour pour guérir.
Oui, ça passe par l'amour, okay. oui, et pas par la sexualité.
Mm-hmm.
Parce que l'inceste, c'est pas un acte d'amour.
Non.
C'est
un
acte génital.
Oui, tout à fait.
C'est même pas un acte sexuel.
Et d'après toi, Pierre, est-ce que en parler, c'est
ben
libérateur,
oui.
c'est faut en parler?
Oui, parler, croire que et espérer. T'sais, on revient aux vertus de croire, d'espérer mm-hmm. et d'aimer.
Oui. Merci, Pierre, sur ces belles paroles. On doit terminer, c'est tout le temps que nous avons. Un immense merci à nos invités, Manon Vincent, auteur, compositeur, interprète, ainsi qu'à notre chroniqueur, Pierre Faubert. Merci, Pierre. Merci à toute l'équipe, sans qui cette émission ne serait pas possible. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde, et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Un merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de notre invité Manon Vincent. Tourner le dos à son histoire ne suffit pas à guérir, puisque vivre sans dire, c'est vivre dans le mensonge. Ici Martin Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.